RFI Radio France Internationale, 9h à Paris et à Rome, 7h à Abidjan.
Andréane Mélard.
Et le retour de Grégoire Morelli pour le journal.
En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, sous le coup d'une radiation de la liste électorale, fait désormais face à une affaire qui l'oppose à une militante de son parti, le PDCI-RDA. Ses partisans sont appelés à se mobiliser aujourd'hui. Des frappes russes meurtrières ont visé Kiev cette nuit. Au moins 9 personnes ont été tuées. Alors qu'hier, Donald Trump s'est montré très virulent vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, qui l'accuse de saboter un éventuel accord en refusant de céder la Crimée à Moscou. Et la Maison-Blanche, elle, en revanche, est d'accord pour discuter avec la Chine sur les droits de douane. Selon le Wall Street Journal, l'administration américaine envisage une réduction de plus de la moitié des droits de douane qu'elle a annoncé. Conséquence, la bourse de Wall Street a fini largement dans le vert. En Côte d'Ivoire, le parti d'opposition, le PDCI, se mobilise après que la justice a ordonné ce mardi la radiation de son candidat, Tidjane Thiam, de la liste électorale. Son parti appelle donc à manifester devant les tribunaux. Binta Diagne, vous êtes notre correspondante à Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Alors Binta, pourquoi le PDCI appelle-t-il ses militants à manifester aujourd'hui ?
Le PDCI veut mobiliser ses militants autour d'un combat, la candidature de son leader, Tidjane Thiam, car la décision de justice rendue mardi le rend inéligible pour la présidentielle d'octobre. Et à ce stade, plus aucun recours n'est possible. Le PDCI n'envisage aucune alternative. Il n'y a pas de plan B ni de plan C, a martelé Tidjane Thiam dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Tidjane Thiam est actuellement en France depuis quelques semaines. Il pilote donc à distance ce combat pour une élection transparente et inclusive, selon ses mots. Il dénonce un déni de justice et soupçonne le pouvoir exécutif d'être derrière ces blocages judiciaires. Des accusations que le gouvernement rejette en bloc. Nous sommes en train de bâtir un état de droit, souligne Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement. Le droit a été dit, ajoute ce responsable qui, à quelques heures de cet appel à manifester, met en garde, le désordre ne sera pas toléré. Fin de citation.
Et on l'évoquait, Binta, ce matin se tient au tribunal d'Abidjan un autre procès contre Tidjane Thiam. Pourquoi cette audience, elle est importante ?
Alors cette audience, elle est importante car Tidjane Thiam risque d'être destitué de la direction du PDCI. En effet, à travers cette procédure judiciaire, une militante, Valérie Yapo, remet en question la légalité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI lors d'un congrès tenu en décembre 2023. Cette militante du PDCI estime que Tidjane Thiam avait, à cette époque-là, perdu la nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité. Selon cet article, un Ivoirien majeur perd la nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité étrangère. Or, pour diriger le PDCI, il faut être ivoirien. Et donc, c'est précisément cet argument qui a motivé déjà mardi le tribunal de première instance à ordonner, donc dans une autre procédure, la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale.
Binta Diagne, merci pour ces précisions.
Une nuit meurtrière à Kiev, la capitale ukrainienne.
Plusieurs attaques de missiles russes ont tué au moins 9 personnes et fait 63 blessés. Une attaque qui intervient après les propos de Donald Trump qui a accusé l'Ukraine de ne pas vouloir la paix en refusant de reconnaître l'annexion de la Crimée. Nous sommes en ligne avec Cerise Sudry-Ledu. Bonjour.
Bonjour.
En Ukraine pour RFI, Volodymyr Zelensky donc n'a pas tardé à réagir, rappelant à Washington ses déclarations de 2018 opposées à l'annexion de la péninsule par Moscou.
Oui, hein, exactement. Le tweet publié en début de soirée est mesuré. À la suite de la réunion à Londres avec les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, Volodymyr Zelensky se félicite que la diplomatie soit déclenchée. Mais il a joint à son tweet une déclaration faite par les États-Unis en 2018, au temps du premier mandat de Donald Trump, indiquant que les États-Unis n'accepteraient pas l'annexion de la Crimée par Moscou. Une réponse à ces dernières 48 heures pendant lesquelles Donald Trump et ses proches accusaient l'Ukraine de ne pas jouer le jeu et de ne pas vouloir la paix, en indiquant refuser reconnaître l'annexion de la Crimée, disant que celle-ci était perdue depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky répète régulièrement sa position, pas question d'entamer des discussions avec la Russie sans cesser le feu préalable. Mais depuis la fin de l'éphémère cessez-le-feu de Pâques, il y a quelques jours, plusieurs attaques meurtrières ont eu lieu dans le pays, dont celle de cette nuit, vous l'avez dit, sur la capitale. 5 districts ont été touchés et des bâtiments résidentiels endommagés. Le bilan est encore provisoire et les recherches d'éventuelles victimes sont toujours en cours.
Cerise Sudry-Ledu.
Aux États-Unis, la bourse de Wall Street a fini largement dans le vert hier.
Une accalmie des marchés financiers qui peut s'expliquer par le fait que l'administration Trump a adouci son discours vis-à-vis de Pékin. La Maison-Blanche a en effet annoncé un possible accord avec la Chine sur les droits de douane. La volte-face du président républicain concernant le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, a aussi contribué à la stabilisation des cours de la bourse. Depuis Washington, la correspondance de Guillaume Dodin.
Non, Donald Trump n'a pas l'intention de virer le patron de la Réserve fédérale américaine et oui, la Maison-Blanche est d'accord pour discuter avec la Chine sur les droits de douane. C'est ce double assouplissement du discours qui a rassuré les investisseurs américains et mondiaux. La semaine dernière, le président américain disait pique-pendre de Jerome Powell, accusé de critiquer sa politique économique et de ne pas baisser les taux d'intérêt. Il envisageait de mettre un terme au mandat du patron d'une institution censée être indépendante. Les marchés avaient toussé et il semble que les conseillers du président aient réussi à le convaincre de revenir sur ses menaces. Le ton est moins inamical aussi avec la Chine. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent estime que la guerre commerciale actuelle lancée par Donald Trump est insoutenable. Et de fait, les droits de douane de 145% imposés par les États-Unis sur les produits chinois et les mesures de rétorsion chinoise de 125% sur les produits américains équivalent à un gel des échanges entre les deux plus grandes économies mondiales. Donald Trump estime qu'il y aura un accord juste avec la Chine et selon le Wall Street Journal, l'administration envisage une réduction de plus de la moitié de ses droits de douane. Ce ne sera pas pour tout de suite et on ne reviendra pas à la situation antérieure, mais au moins, il y a une ouverture. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
C'est l'un des engagements du président Joseph Aoun au Liban. Désarmer le Hezbollah, mais aujourd'hui le dialogue avec le mouvement chiite est au point mort. Dimanche dernier, le président a lui-même concédé que la question était délicate. C'est le dossier de ce 9h. Pierre-Olivier, bonjour.
Bonjour.
D'abord, au-delà du président Aoun, qui veut désarmer le Hezbollah?
Alors à l'échelle internationale, on pense bien sûr aux voisins israéliens soutenus par les États-Unis. Israël qui, pour sa sécurité, ne souhaite voir dans la région aucun groupe armé capable de lui résister. Et puis à l'intérieur du Liban, vous l'avez évoqué, le président Joseph Aoun, notamment élu en janvier dernier, souhaite désarmer le Hezbollah au profit de l'armée libanaise, une armée sous-équipée et en sous-effectif.
Alors on le disait, les discussions sont au point mort, pourquoi ça coince?
Alors cette idée de désarmer le Hezbollah déjà ne fédère pas toute la population libanaise, beaucoup d'habitants voient la milice chiite comme le meilleur rempart face aux voisins israéliens en l'absence d'une vraie armée libanaise. Et puis il y a bien sûr le Hezbollah. Même s'il s'est dit ouvert au dialogue, son dirigeant, Naïm Kassem, pour l'instant, est catégoriquement opposé à rendre les armes. Écoutez, Anthony Samrani, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour.
Le Hezbollah est convaincu que le grand projet israélien au Liban aujourd'hui n'est pas seulement sécuritaire, il n'est pas seulement de désarmer le Hezbollah, ce qui est en grande partie déjà fait, mais il est de le supprimer totalement, supprimer politiquement sur la scène libanaise.
Voilà, le Hezbollah qui agite aussi la menace d'une guerre civile au Liban si jamais il était désarmé et s'il disparaissait de la scène politique.
Et justement Pierre, de quel stock d'armes dispose encore le Hezbollah?
Alors à la fin de la guerre contre le Hezbollah, cet automne, l'armée israélienne a dit avoir détruit 80% de ses capacités. On parle là bien sûr des armes lourdes comme des missiles, mais on ignore en revanche si le Hezbollah a délibérément choisi de ne pas utiliser certains missiles en les gardant pour plus tard sur consigne par exemple de l'Iran. Enfin, en termes d'armes légères, les combattants du Hezbollah en ont par milliers et ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, quand bien même le Hezbollah serait désarmé, cela n'assurerait pas pour autant la sécurité d'Israël. Selon Aurélie Daher, spécialiste du Hezbollah et de la politique libanaise.
La résistance, quand elle a libéré le sud Liban en 2000, au printemps 2000, d'une occupation israélienne qui a quand même duré 22 ans, elle n'a pas fait avec les roquettes de 250 km de portée dont elle peut disposer aujourd'hui. Elle l'a fait avec du petit matériel. Donc, même si Israël, comme les adversaires politiques du Hezbollah au Liban, préférerait le voir désarmé. En réalité, ça ne va pas suffire pour garantir la sécurité des uns et des autres. Il faut penser ce désarmement dans quelque chose de plus large. Une culture de la non-violence, une culture de la paix et de collaboration parmi les Libanais.
Voilà, pour l'instant, en tout cas, le Hezbollah n'a pas rendu ses armes. Et s'il le faisait, il faudrait voir ce qu'il demanderait en échange au président libanais, car il pourrait aussi en profiter pour se renforcer politiquement, Grégoire.
Merci à vous, Pierre-Olivier, dans la bande de Gaza. Une série d'attaques israéliennes nocturnes a tué au moins 19 personnes dans l'enclave. Et hier, Mahmoud Abbas a pris la parole. Il a exhorté le Hamas à libérer les derniers otages retenus à Gaza. Selon lui, le mouvement palestinien a fourni à Israël des prétextes pour poursuivre la guerre, alors que dans l'enclave, la situation est critique. Le 12 avril dernier, le ministre israélien de la Défense avait annoncé l'encerclement complet du gouvernorat de Rafah dans le sud de l'enclave. Un corridor du nom de Morag entre les villes de Rafah et Khan Younes est désormais entièrement contrôlé par Israël. Des opérations appelées à s'étendre, selon l'armée. Les conséquences humanitaires, elles, se font déjà rapidement sentir à Bla Jounaïdi.
Il y a une dizaine de jours, le ministre israélien de la Défense annonçait que Rafah était devenue une zone de sécurité. Les populations, en panique, ont fui vers El Mawassi, zone prétendument humanitaire plus au nord. Derrière elle, elle laisse un paysage que certains décrivent comme apocalyptique, très loin de ce que ces terres étaient à l'origine, comme l'explique l'économiste Mohamed Abou Jiab au micro de notre correspondant à Gaza, Rami El Merari.
Ce sont des zones essentiellement agricoles. Il y a la zone d'Al-Mawassi et le sud de la ville de Rafah. On estime que l'entrée des forces armées israéliennes à Rafah a détruit entre 30 et 40% de la production agricole. Ces opérations militaires ont eu un effet direct et négatif sur les marchés, que ce soit sur la disponibilité des produits ou sur le prix des légumes comme les oignons ou l'ail. Plus ces opérations s'étendent, plus les terres agricoles sont abandonnées et l'insécurité alimentaire augmente à Gaza.
Pendant des mois, certains agriculteurs locaux prenaient des risques mortels en continuant à travailler leurs terres. Ce n'est plus une option depuis que la zone a été déclarée zone de sécurité. Les images satellites sont parlantes. Les couleurs en un an sont passées du vert à l'ocre. Selon l'estimation la plus récente de l'ONU, 75% des terres cultivables de Gaza ont été endommagées par le conflit.
Près de 50 000 fidèles ont rendu hommage au pape François devant son cercueil depuis hier matin. La dépouille du souverain pontife était accessible toute la nuit aux fidèles qui souhaitaient se recueillir pour un dernier hommage. Les funérailles de François sont-elles prévues samedi matin en présence de nombreux chefs d'État. Dans le reste de l'actualité, l'Inde a pris une série de mesures diplomatiques contre le Pakistan. New Delhi accuse en effet Islamabad de terrorisme transfrontalier après une attaque meurtrière contre des touristes au Cachemire qui a fait 26 morts ce mardi. De son côté, le Pakistan convoque aujourd'hui son comité de la sécurité nationale pour, je cite, « répondre au communiqué du gouvernement indien ». C'est ce qu'a annoncé sur X le vice-premier ministre Ishak Dar, également chef de la diplomatie.
Enfin, la Chine poursuit lentement, mais sûrement, sa conquête spatiale.
Pékin a annoncé hier le lancement imminent de la mission Shenzhou 20, qui enverra un équipage de 3 astronautes vers la station spatiale chinoise Tiangong. Ils remplaceront les 3 Taïkonautes présents depuis octobre dernier dans une rotation désormais bien huilée. Une mission qui peut sembler de routine, mais qui dit beaucoup de l'ambition et de la maturité croissante du programme spatial chinois, Cléa Boders.
À bord, on retrouve un vétéran, Chen Dong, déjà impliqué dans la construction de la station lors de la mission Chenzhou 14, et deux nouveaux venus, Chen Zhonghui, ancien pilote de l'armée de l'air, et Wang Jie, ingénieur du secteur spatial. Leur séjour de 6 mois sera consacré à des expériences scientifiques, des sorties extravéhiculaires et à l'amélioration de la station. Avec cette mission, la Chine montre qu'elle est non seulement capable de rejoindre l'orbite, mais surtout d'y rester. Une prouesse que seuls quelques pays maîtrisent, exclus de l'ISS pour des raisons de sécurité nationale liée à l'influence de l'armée chinoise dans le programme spatial, la Chine a choisi la voie de l'autonomie stratégique et elle y parvient. La station Tiangong n'est pas qu'un laboratoire scientifique, elle est aussi un tremplin vers la Lune que Pékin espère atteindre avec un équipage humain d'ici 2030. C'est aussi un outil de diplomatie spatiale alors que la Chine commence à tendre la main à d'autres pays, notamment dans le sud global. Un pas solide et régulier dans une trajectoire qui pourrait bien changer durablement l'équilibre des puissances dans l'espace. Cléa Broders de Pékin, RFI.
Enfin, Apple et Meta condamnés à des amendes pour des infractions à la concurrence. Les deux géants de la tech ont été sanctionnés par la Commission européenne hier. La marque à la pomme se voit infliger une amende de 500 millions d'euros pour des clauses abusives dans sa boutique d'applications App Store. Meta, maison mère de Facebook et Instagram, devra payer 200 millions d'euros pour avoir enfreint une règle encadrant l'usage des données personnelles.
C'était le journal international sur RFI avec Grégoire Morelli. Il est à réécouter, bien sûr, comme toutes nos autres éditions sur notre application RFI Pure Radio. Il est bientôt 9h15 à Paris. Dans les prochaines minutes, reportage en Grèce. Et puis, nous appellerons notre correspondante à Londres pour parler d'une situation dramatique qui prend de l'ampleur, l'abandon des animaux de plus en plus nombreux. Et cela en raison de l'augmentation du coût de la vie. On en parle avec elle. Et puis, on va parler aussi des incendies en Afrique, un sujet capital qui passe très souvent en dessous des radars de l'actualité. On en parle avec Florent Guignard dans notre question d'environnement dans les prochaines minutes. Mais d'abord, la presse. Frédéric Couteau à la une, quel plan de paix pour l'Ukraine ?
Oui, comment mettre un terme à cette guerre meurtrière qui dure depuis plus de 3 ans ? Pour l'instant, c'est l'impasse, avec des canaux diplomatiques bien distincts qui n'aboutissent à rien et des positions bien tranchées qui semblent irréconciliables. Sur le plan diplomatique, d'un côté, pointe Le Monde à Paris, les discussions hier à Londres entre Ukrainiens, Européens et Américains, mais sans les deux principaux émissaires de Donald Trump et sans ministre européen des Affaires étrangères. Et de l'autre, Donald Trump qui continue de pousser pour obtenir une issue rapide au conflit. Dimanche dernier, il disait espérer un accord dans la semaine. En manque de résultats spectaculaires, il aurait toujours en vue un sommet avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, à Riyad, sommet qui pourrait avoir lieu à la mi-mai.
En attendant, c'est toujours le dialogue de sourds.
Sur la table, côté américain, le temps à Genève, la reconnaissance de l'annexion russe de la Crimée, l'abandon des ambitions ukrainiennes de rejoindre l'OTAN ou encore la définition d'un territoire neutre autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia qui passerait en main américaine. Pour sa part, le Financial Times à Londres croit savoir que Vladimir Poutine aurait proposé aux États-Unis d'arrêter son invasion de l'Ukraine et de geler la ligne de front actuelle. Cela supposerait pour la Russie renoncer à sa revendication de prendre le contrôle de la totalité des régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijjia, dont elle occupe déjà de vastes secteurs. Le président russe serait prêt à cette concession si les États-Unis accèdent à ces revendications majeures, comme la reconnaissance de la souveraineté de la Russie sur la péninsule de Crimée, annexée en 2014, et la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, non, répond pour sa part Volodymyr Zelensky. Pas question de reconnaître l'annexion russe de la Crimée. Non, s'exclament également les Européens. Dans ce cas de figure, explique l'Estonienne Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, citée par Le Temps, la Russie obtiendrait clairement ce qu'elle veut. L'Union européenne ne reconnaîtra jamais la péninsule de Crimée comme russe, affirme-t-elle encore. La Crimée, c'est l'Ukraine.
Die Welt à Berlin s'insurge.
Le plan de paix, entre guillemets, de Trump est une imposture, s'exclame le quotidien allemand, parce que cela créerait un précédent et encouragerait de nouvelles guerres impérialistes de la part de Moscou, car en reconnaissant la Crimée comme russe, les Américains prendraient acte de la modification violente des frontières sur le continent européen. Selon cette logique, poursuit Die Welt, les Russes n'auraient qu'à occuper de plus en plus de régions d'Europe de l'Est pour obtenir progressivement une reconnaissance internationale pour leur conquête illégale. Il ne s'agit donc pas d'une solution de paix durable, comme le prétend l'administration Trump, insiste Die Welt, mais plutôt d'une incitation pour Moscou à poursuivre sa politique expansionniste colonialiste.
Le Guardian à Londres est sur la même ligne, mais en termes plus feutrés.
La décision de Washington de reconnaître la Crimée comme russe marquerait un tournant dans la politique américaine d'après-guerre, la Maison-Blanche approuvant de fait une tentative russe de redessiner par la force les frontières de l'Europe. Dans le Kyiv Post, quotidien ukrainien, Maxim Vitchik, professeur de droit à l'université de Kiev, résume la position de son pays. Le droit international est clair, affirme-t-il. Les concessions territoriales faites sous agression sont non seulement illégitimes mais nulles. Tout accord valable ne doit intervenir qu'après que l'Ukraine ne soit plus soumise à aucune forme de menace limitant sa capacité à choisir librement. Nous ne pourrons nous en sortir que lorsque l'Ukraine pourra exprimer une volonté sincère et libre. Et pour cela, l'attaque russe doit cesser. Hier, colère de Trump, le président américain accuse Volodymyr Zelensky de nuire aux négociations en refusant d'accepter la souveraineté russe sur la Crimée, pointe le Times à Londres.
Enfin, les perspectives d'un cessez-le-feu semblent d'autant plus lointaines, soupire le Washington Post, que la Russie a lancé ces dernières heures une attaque aérienne de grande envergure sur Kiev.
Oui, les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées cette nuit, puis des tirs et des explosions ont retenti dans tout le centre-ville, relate le journal, tandis que la défense antiaérienne tentait d'abattre des missiles et des drones. Le massacre, alors, qu'on parle de trêve, s'indigne enfin la Repubblica à Rome. La Repubblica qui fait état d'un bilan provisoire cette nuit de 9 morts et plus de 60 blessés dans la capitale ukrainienne.
Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse internationale sur RFI. Allez, tout de suite, sur la radio du monde, on va un peu parler de radio. Tiens donc, la radio, outil ludique et pédagogique d'éducation aux médias et à l'information. Un enjeu crucial à l'heure où les fake news se multiplient à travers le monde. C'est ce que propose depuis une dizaine d'années le réseau social éducatif European School Radio, installé dans les locaux de l'Université internationale de Thessalonique, en Grèce. Cette structure vient d'organiser son propre festival radiophonique pour les enfants et les ados, avec des jeunes venus de France, d'Allemagne ou encore encore de Chypre. L'occasion de demander à ces jeunes comment ils s'informent et comment ils abordent les fausses informations. Joël Bronner leur a posé la question. Reportage.
L'événement, cette mi-avril, c'est la soirée d'ouverture d'un festival radiophonique destiné aux jeunes qui regroupe près d'un millier de participants au total. Jeunes français, allemands et grecs, notamment venus réaliser un podcast pour documenter, comme des apprentis journalistes, leur passage au festival. Un projet baptisé Kids Radio Europe. Casque sur les oreilles et enregistreur à la main, Jade, 16 ans, profite d'une excursion dans la forêt pour se fondre dans le rôle de reporter et capturer l'atmosphère sonore environnante. Face à la multitude d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'adolescente se dit méfiante.
Quand j'entends ma sœur en parler qu'il y a eu ce qui s'est passé ça ou ça sur TikTok, j'ai tendance à aller sur Internet voir si c'est réel ou pas. Et puis après, c'est plus fiable quand ça vient de médias officiels pour moi, parce qu'il y a des gens derrière qui ont revérifié l'info.
Ses jeunes collègues grecs, Johanna, 16 ans, et Anna, 15 ans, affirment également pratiquer la culture du doute.
Pour l'actualité, je m'informe bien sûr un peu via la télévision, mais surtout via Internet. Je consulte plusieurs sites pour être sûr que les informations soient fiables. Quand les journalistes grecs exagèrent, quand ils en font des tonnes, je ne leur fais pas confiance.
C'est principalement à la télé que je suis les informations. Et ici, à la télévision, je trouve que les journalistes exagèrent beaucoup. Ils rendent les sujets beaucoup trop dramatiques. Ça peut pousser les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que ça va être encore pire dans le futur avec l'intelligence artificielle. Nous, les jeunes, on l'utilise, mais elle peut aussi contenir de fausses informations.
D'où l'intérêt pour leurs encadrants d'initier enfants et adolescents à l'univers de l'information. Myrtos Tamelaki dirige ce projet européen d'éducation aux médias au sein de l'association Les Francas. Elle en résume la mission éducative.
Comprendre comment ça fonctionne le monde des médias, comment on peut aller chercher une information, vérifier une source. Notre objectif principal, c'est développer l'esprit critique.
Esprit critique, oui, mais l'initiation aux médias et à l'outil radio passe aussi par la dimension ludique. Ici, Laura, 12 ans, informe ses auditeurs des péripéties du séjour via un carnet de voyage.
Un drame vient de se produire. Laetitia a découvert que la machine à café ne marchait plus.
Documenter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, voilà peut-être pour ces collégiens et lycéens européens l'une des leçons de ce festival radiophonique. Quitte à décrire un monde confronté à des réalités difficiles, comme le manque de caféine. Joël Bronner, de retour de Neos Marmaras, RFI.
RFI à Londres, il est 8h22. On part maintenant au Royaume-Uni parler d'une situation dramatique qui prend de l'ampleur. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs animaux de compagnie. Il y a eu, rien qu'en 2025, 5700 abandons en cause. L'explosion du coût de la vie, on en parle ce matin avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher. Vous nous dites, Sidonie, que les abandons d'animaux augmentent donc au Royaume-Uni.
Eh bien oui, c'est une réalité de plus en plus visible au Royaume-Uni. Depuis plusieurs mois, les refuges pour animaux tirent la sonnette d'alarme. Ce ne sont plus seulement des cas isolés, mais une véritable vague d'abandon qui touche tout le pays. À l'origine de cette situation, la pression économique qui s'intensifie mois après mois, car depuis la fin de la pandémie, le coût de la vie a explosé. En octobre 2022, l'inflation a dépassé les 11%, un niveau historique. Alors, depuis, beaucoup de foyers n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs animaux. Nourriture, soins vétérinaires, accessoires, tout coûte trop cher. Résultat, les animaux sont abandonnés. Depuis le début de 2025, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a recensé plus de 5700 abandons. C'est 32% de plus qu'à la même période l'an dernier. Et ce phénomène s'inscrit dans la durée puisqu'en 2024, 22 500 abandons avaient déjà été signalés, soit une hausse de 7% par rapport à 2023.
Sidonie, les refuges sont débordés, hein, certains propriétaires confrontés à des choix déchirants.
C'est exactement ça. Il y a une réelle détresse chez ceux qui poussent la porte des refuges. Elvira Mussey-Lyons, qui dirige le refuge Mayhew à Londres, raconte que les gens arrivent tristes, honteux et frustrés. parce que pour beaucoup, la situation est si terrible qu'il faut choisir entre manger soi-même ou nourrir son animal. Depuis le début de l'année, son refuge a accueilli plus de 130 animaux et ce chiffre grimpe chaque semaine. C'est du jamais vu. Depuis 25 ans, on retrouve des chiens attachés aux grilles du centre, des lapins qui sont abandonnés dans des parcs. C'est une situation sans précédent.
Et est-ce qu'on peut dire aussi, Sidonie, qu'on assiste là au contre-coup des nombreuses adoptions faites pendant la pandémie de coronavirus ?
Oui, tout à fait. Pendant les confinements, beaucoup ont adopté pour combler le sentiment de solitude. Mais une fois le quotidien revenu, avec la reprise du travail, les transports, les horaires à rallonge, certains se sont trouvés débordés. Et avec la crise économique qui s'est greffée par-dessus, la situation est devenue intenable.
Les précisions de Sidonie Gaucher, correspondante d'RFI à Londres. Et tout de suite, c'est notre question d'environnement sur RFI. On s'intéresse ce matin au sujet des incendies en Afrique, un sujet capital qui passe bien trop souvent en dessous des radars. Florent Guignard, l'Afrique brûle.
Eh bien oui, en permanence. Et comment le sait-on ? Eh bien grâce aux satellites. Il y a plusieurs satellites d'observation qui détectent les feux de forêt partout sur la planète. En réalité, ils détectent les nuages de monoxyde de carbone. C'est le gaz issu de la combustion et les cartes quotidiennes qui sont quasiment en temps réel sont éloquentes. On peut d'ailleurs aller voir ça sur Internet.
Et on mettra l'adresse sur le podcast de questions d'environnement.
Mais vous le verrez, Andréane, c'est impressionnant. C'est comme une espèce de nuage rouge qui recouvre l'Afrique d'est en ouest, entre la bande sahélienne et l'Afrique centrale. On va écouter Cathy Clairbeau, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur le suivi de la composition de l'atmosphère grâce aux données d'un satellite européen.
Il n'y a pas de jour de l'année où j'ai pas des incendies en Afrique, hein, donc c'est en permanence. C'est toujours un peu bizarre pour nous d'ailleurs, parce que quand il y a des incendies importants quelque part en été, on en parle beaucoup. Par exemple, les feux en Californie ou bien ce qu'il y a eu à Los Angeles il y a pas longtemps qui détruisent des maisons. Mais en fait, vu du satellite, les feux les plus importants, ce sont de loin les feux qui se produisent en permanence en Afrique et en Amazonie à certaines périodes.
Et l'Afrique détient à ce titre un triste record.
Eh oui, à lui tout seul, le continent africain concentre 70% des incendies de la planète. Plus de 4 millions de kilomètres carrés brûlés chaque année en 20 ans. Le nombre d'incendies a doublé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en particulier dans le bassin du Congo. Mais la plupart de ces incendies ont une particularité. Ils sont volontaires, maîtrisés sur de petites surfaces. C'est la culture sur brûlis, le principal mode d'agriculture dans les zones tropicales humides. Cathy Clairbeau.
Toutes les fins de culture sont brûlées parce que c'est la manière de remettre en fait la terre en état pour planter la culture suivante, qui est la plus facile à mettre en œuvre et la plus économique, sûrement pas la moins polluante, mais ça nourrit les sols, les feux.
Ça nourrit les sols, les feux. Pourquoi cela, Florent ?
Eh bien, en fait, on faisait déjà ça à la préhistoire, il y a des milliers d'années. La cendre est un engrais naturel excellent, riche en carbone et en minéraux. Le problème, c'est qu'on brûle de plus en plus de forêts pour défricher et ensuite cultiver. Et ces feux de forêt, c'est du CO2 dans l'atmosphère. Une forêt disparue, c'est un puits de carbone en moins. D'ailleurs, depuis peu, même si ça n'est pas directement lié aux incendies, l'Afrique émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe.
Et l'autre problème, c'est la pollution de l'air.
Un air qu'on respire, la fumée des incendies, c'est un cocktail particulièrement toxique, Cathy Clairbeau.
C'est probablement le cocktail de gaz le plus dangereux que vous puissiez imaginer. Une trentaine de molécules différentes. Le monoxyde de carbone, c'est la plus facile à voir par satellite. Et alors, il y a surtout les particules de suie qui sont très impactantes pour les poumons. C'est au moins aussi dangereux que de fumer des cigarettes si vous vous retrouvez dans ces régions-là du monde. S'ils ont un problème, par exemple, pour nourrir leur population, probablement que la pollution, ça vient dans un deuxième temps.
Et les Africains sont particulièrement exposés.
L'Afrique subit en moyenne chaque année 32 jours d'exposition importante aux particules fines nocives provoquées par les incendies. En Europe, c'est un seul jour par an. Mais c'est pas parce qu'on est loin qu'il faut se croire à l'abri. Ces particules toxiques, le vent les transporte parfois sur des milliers de kilomètres.
Florent Guignard pour notre question d'environnement à retrouver sur le site internet d'RFI, www.rfi.fr. Vous restez avec nous dans une minute, le retour de l'information africaine.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Pourquoi RFI dit ça ? Amélie Beaucourt.
Comment les journalistes de RFI se sont-ils mobilisés à l'annonce de la mort du pape François ? Quand choisit-on de bouleverser l'antenne en urgence et quel dispositif met-on en place lors d'une édition spéciale ? Comment une rédaction se prépare-t-elle au décès d'une personnalité publique ?
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Amélie Beaucourt, vendredi à 19h41 sur RFI.